Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, bien évidemment, on va traiter de l'affaire d'Alexandre Bissonnette. Un jugement est tombé cette semaine de la cour d'appel qui ramène ça à la normale. C'est toujours la prison à vie, mais il pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans, pas de 50, 150. On va analyser tout ça avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Ensuite, une autre portion du dossier Bissonnette. On va se demander avec le docteur Gilles Vachon, est-ce que quelqu'un qui a commis ce genre de crime odieux peut être réhabilité? Par la suite, il y a le gouvernement Legault. Est-ce que vous voyez ce qui se passe avec la gestion de Noël? C'est très critiqué. C'est pas vraiment clair. On revient un peu sur ce qu'on a annoncé. On en traite avec Patrice Ouellette, le consultant en gestion, qui va nous expliquer. Est-ce que le gouvernement gère bien ça? Et on commence avec Maître Sharon Otis qui revient sur cette terrible histoire d'enfants gravement maltraités. Une nouvelle histoire d'horreur à Granby. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Vous avez vu cette semaine cette histoire d'horreur avec la DPJ de l'Estrie à Granby. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, c'est qu'il y a un huissier qui a fait une intervention pour une éviction d'une dame. Et là, il a vu une histoire d'horreur. Quelqu'un à quatre pattes qui rampait, un autre enfant avec la couche pleine d'excréments. La docteure qui a témoigné au procès dit là, que c'est le pire cas de maltraitance qu'elle a vu. Ce qu'on sait, c'est que l'enfant était battu avec un bâton, il avait les genoux callosités, un épaississement de la peau à force de se déplacer à quatre pattes. Comment ça arrive? Et là, on se rend compte qu'il y avait 10 signalements. On se rend compte qu'on avait fermé le dossier après avoir rencontré la mère. Eh bien, on n'avait pas le choix d'en parler à l'avocat là-bas et avec Maître Sharon Otis qui connaît bien le domaine et qui nous a souvent dit qu'il y avait un problème avec la DPJ. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Donc, c'est quoi votre premier constat sur cette histoire-là?
Je suis d'autant plus découragée parce que, bien évidemment, ça vient d'une part... appuyer ce que le premier ministre Legault a fait en constituant, dans le fond, en mettant sous tutelle la DPJ de l'Estrie dans l'histoire de l'enfant martyr. Mais je suis d'autant plus découragée de voir cette trame factuelle-là qui ne touche pas uniquement que cet enfant-là de 17 ans qui était dans un piteux état. On dit qu'il y avait au préalable une maladie osseuse et une dénutrition. Dans le fond, c'est trois enfants de trois pères distincts. Donc, apparemment, ils vivaient dans des excréments de chiens, d'environ approximativement 12 chiens. À lire tout ça, là, ce qu'on peut voir, ce qui en est découlé du jugement qui a été rendu dernièrement, le 13 novembre dernier, par l'honorable juge Chapdelaine, c'est que même lui était estomaqué et remettait en question et a même mentionné que la DPJ avait gravement manqué à son mandat de protéger les enfants, puisque la DPJ, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, avait fermé le dossier quant à cet enfant-là qui avait eu du signalement par rapport à lui seulement. Okay. Et que trois mois plus tard, on a la découverte du huissier. Une découverte, vous comprenez, des fois, il y a des gens qui nous passent, qui sont de passage dans notre vie et qui sont percutants. Ouais. Je pense que ce huissier-là a pu sauver la vie de cet enfant-là qui n'allait pas bien parce que sa amélité, il allait tellement pas bien physiquement que sa amélité pour deux mois d'hospitalisation et quatre mois de réadaptation. Et il vit toujours en famille d'accueil et il craint toujours pour sa santé, sa sécurité, ainsi que celle de ses deux jeunes frères. Donc, je suis découragée de plus en plus de voir des cas qui nous est répertorié, que ça pop-up de part et d'autre. Je pense que ce n'est pas la première fois, je me cacherai pas que c'est mon opinion là-dessus, c'est que il y a des lacunes. Je pense que j'ai toujours été très claire là-dessus. Et ça vient encore une fois appuyer le constat que moi, je peux voir dans certains dossiers avec la DPJ.
Mais Maître Otis, je veux dire, si c'était pas de l'intervention du huissier, on aurait parlé de pas de la fillette martyre de Granby, mais de l'adolescent martyr de Granby. Et ce qui choque encore plus, choque l'imaginaire, c'est qu'il me semble que quand on en a parlé beaucoup ici et on se disait, tu sais, il est arrivé un drame. La seule chose positive, c'est qu'on peut apprendre. Et là, on sentait toutes les autorités en alerte, en se disant, OK, puis là, il y a la commission Laurent, on avait eu avant ça la petite Rosalie.
Oui.
Donc, là, en ce moment, malgré cette vigilance-là, il n'y a rien qui se fait vraiment, là, s'il y en a un autre qui passe sous le radar, là.
Bien, apparemment, ce qui est répertorié, c'est qu'il y aurait eu des correctifs qui auraient été apportés à la DPJ de l'Estrie suite à l'enquête interne réalisée. Cependant, somme toute, je pense qu'il y a bien des cas qui passent encore dans les filages du filet, comme on dit. Et je le constate par moi-même et je suis contente que ce huissier-là ait été écouté. Parce que moi, à titre d'avocat, comme je l'ai dit dans une précédente entrevue, j'ai déjà signalé une fois en 15 ans et on ne m'a pas pris nécessairement au sérieux. Donc, je suis contente au moins que ce huissier-là ait été écouté. Et je pense que nous, à titre d'auxiliaire de justice, on devrait... il y a des policiers... Vous vous rappelez l'autre cas, là, la dernière fois, là, où est-ce que c'est un policier dans le cas de Wendake qui avait formulé une plainte et même lui, ça n'avait pas été recueilli, ça n'avait pas été... Le signalement n'avait pas été retenu au niveau de la DPJ, malgré que les policiers, là, ils en voient toutes les couleurs, je peux vous le garantir. Là. Donc, je pense que nous, à titre d'intervenants dans les rouages judiciaires, je pense qu'on devrait être pris au sérieux un peu plus que ça. Et nous, c'était de l'intervention de celui-ci qui arrivait là pour une éviction par rapport à une décision de la régie du logement. Ce petit garçon-là, mais maintenant, qui n'est plus un jeune garçon, là, mais somme toute, serait son possiblement décédé et le sort de ses deux jeunes frères, parce qu'on parle d'un poupon et d'un enfant de 3 ans. Donc, serait laissé seul à eux-mêmes, n'aurait pas été placé. Ce que j'ai pu voir, c'est que l'enfant de 3 ans a été placé sous la protection et sous la garde de son père et que le poupon est placé en famille d'accueil. Donc, madame, présentement, elle a plaidé coupable et elle a eu une peine de 8 ans d'emprisonnement pour ses gestes. Mais somme toute, je suis contente que le juge, chef de l'EM, ait mentionné que la décision de procéder à la fermeture du dossier en octobre 2018 est une décision qui est surprenante et surtout hautement questionnable. Et parce que des fois, c'est bien beau de prendre des décisions, mais encore faut-il avoir les motifs sous-jacents pour venir expliquer la raison et le cheminement juridique ou le cheminement, le processus qui a mené à cette décision-là. Et manifestement, après 10 signalements, je ne peux pas croire qu'une personne, un intervenant dans un dossier puisse penser que ces 10 signalements sont mal fondés.
Oui, mais c'est justement, Maître Otis, expliquez-nous, éclairez-nous, comment 10 signalements, et là, on se rend compte que c'est un état grave d'un enfant qui dure depuis longtemps, c'est ce qui est terrible là-dedans. Pourquoi on ne se rend pas compte, on ne rencontre pas les enfants, on n'a pas vu avant qui était malade ou qui est de l'état de l'insalubrité de la place?
Généralement, il y a une rencontre. Il y a une rencontre de l'intervenante ou de l'intervenant de la DPJ avec l'enfant, soit sur les lieux de l'école. Ce que j'apprends, c'est que l'enfant de 17 ans avait été retiré par la mère de l'école. Selon la loi sur l'instruction publique, un enfant doit, entre 6 à 16 ans, être, dans le fond, être assidu et être inscrit à l'école et aller à l'école. Donc, elle l'a retiré pour avoir la mainmise dessus. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça limite un peu et on est dans une période, c'est sûr que ça s'est passé en 2019, ouais. Mais somme toute, généralement, l'intervenante rencontre les enfants, mais dans un milieu objectif.
Pas à la maison?
Rarement à la maison.
Mais c'est donc bien bizarre.
Non, c'est au contraire, les enfants ne se sentent pas à l'aise de discuter et de dire librement.
Non, mais on va pas voir les milieux. Comment qui.
On va voir les milieux, mais sauf que là, vous parlez de rencontrer les enfants. Donc, est-ce que l'enfant a verbalisé être victime, dans le fond, de maltraitance, etc.? Ça, c'est une chose, mais généralement, l'intervenant ou l'intervenante au dossier va voir de part et d'autre les milieux ou le milieu où vit l'enfant en question et où les enfants. Donc, il y a quand même un suivi qui se fait, il y a une évaluation, il y a tout ça, mais malgré tout ça, mais c'est sûr qu'un jour, on en saura plus sur les détails et j'ai hâte de prendre connaissance là, de l'ensemble de la décision là, de du juge Chapdelaine. Mais somme toute, c'est sûr qu'il y a une investigation, mais comme je vous ai dit tout à l'heure dans d'autres entrevues radiophoniques, je pense que la lacune de la DPJ, ce n'est pas au niveau du contentieux, mais bien ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que si l'intervenant ou l'intervenante ne retient pas le signalement et ne monte pas ça plus haut, vous comprenez que le système judiciaire ne peut pas pallier à ça. Donc, la lacune est en bas.
Ouais.
Donc, soit que vous mettez des gens qui sont où vous filtrez. Vous mettez des gens de plus d'expérience qui, lui, va filtrer les signalements. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça se tient? Est-ce que, tu sais, on a matière à investiguer? Est-ce qu'il y a un risque objectif que la santé et la sécurité de cet enfant-là est compromise selon l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse? Donc, tu sais, et par la suite, laisser faire les intervenants qui ont peut-être, à ce que je constate, là, de mes derniers procès, là, c'est des intervenants qui ont peu d'expérience de vie, malheureusement. Et je pense que, quand on n'a pas soit d'enfants nous-mêmes et ou qu'on débute la vingtaine, on est à la mi-vingtaine, je pense qu'on n'a pas le même regard et cette même objectivité-là qu'on a avec du recul et avec l'expérience de vie et l'expérience de terrain.
Ouais.
Donc, je pense que le triage de départ, là, je pense que ça, c'est une des lacunes.
Ben oui, puis le traitement, je l'ai souvent dit moi aussi, le traitement des priorités, mais il est certain qu'à regarder ça, puis excusez-moi, Maître Otis, c'est pas contre vous, mais je suis quasiment découragé d'être aujourd'hui être en train de parler de ça. Tu sais, on a tellement parlé, on a tellement dit,
oui.
Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour... Là, on n'a plus de temps, là, mais on va se laisser là-dessus, puis on s'en reparlera, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Là ça s'appelle la page blanche, puis on recommence à zéro, puis on fait un système qui... C'est nos enfants, c'est la priorité, là.
C'est certain, mais attendent sûrement que le rapport de la commission spéciale là, que le premier ministre Legault a fait sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse
bon.
Sorte date butoir 30 avril 2021.
Ben, il devrait avancer parce que pendant ce temps-là, on voit ce que ça donne. C'est
un gros bateau, donc c'est long
ouais.
À tourner un
ben
gros
oui,
bateau.
Ben oui, mais c'est des enfants qui payent. Des fois, l'ordre de priorité, on se demande, il est où. Merci beaucoup, Maître Otis. Bonne journée.
Bye bye. Au revoir.
Le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Cette semaine, dans l'affaire d'Alexandre Bissonnette, la personne, on parle de la tuerie de la mosquée de Québec, un jugement très important de la cour d'appel qu'on attendait est tombé. Et on remet les pendules à l'heure, on remet ça, si on peut dire, à la normale. On l'avait condamné à la prison à vie, il faut le rappeler, mais avec une possibilité de demande à une libération conditionnelle après 40 ans. La cour d'appel ramène ça à 25 ans, comme c'était auparavant, on met le doigt sur des erreurs, une erreur marquante là, du juge de première instance à l'effet qu'il ne devait pas réparer l'article parce qu'il le trouvait inconstitutionnel et a décidé, au lieu de l'invalider, de le modifier. Et ça, c'était pas correct. On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être là. Tout qu'un dossier. Êtes-vous surpris de cette décision?
Ben, surpris et non. Content de la décision parce que c'est une décision importante. Je disais aujourd'hui, j'étais surpris un peu que c'est la première cour d'appel au Canada qui se penche là-dessus. Mm-hmm. Et ça va aller à la Cour suprême, c'est sûr.
Ouais.
Mais l'article qui avait été édicté sur le cabinet Harper, qui disait que s'il y a plusieurs meurtres, par exemple, la sentence peut être consécutive, 25, 50, 75. On a même un qui a eu 75 ans au Canada.
Oui, Justin Bourque.
La Cour d'appel dit que non, c'est cruel, inusité, ça tient pas compte de la réhabilitation possible. On peut pas envoyer quelqu'un en prison. Ça, c'était pas mal les arguments de la défense aussi. Mm-hmm. Envoyer quelqu'un en prison puis dire, écoute, on a jeté à clé, là, tu sortiras jamais, tu vas mourir en prison. On ne peut pas faire ça. C'est cruel, inusité, c'est inhumain. Et peu importe, les juges se sont pas prononcés sur la gravité des crimes. Il y avait 7 victimes. Ils disent pas ça. Ils disent, au Canada, pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on voit souvent, vous le savez, ouais. 200 ans de prison, 150 ans de prison. Alors ici, la Cour d'appel vient de dire, non, on est au Canada, on ne donnera pas des sentences qui font en sorte que l'individu n'a aucune chance de sortir, aucune chance de réhabilitation. Ça, c'est inconstitutionnel. Donc, ils ont dit, l'article est inconstitutionnel. Le juge de première instance avait dit que c'était inconstitutionnel, mais, comme vous dites, il l'a modifié. La Cour d'appel dit non. C'est inconstitutionnel ou ça ne l'est pas. C'est inconstitutionnel. Donc, la sentence, ça va être celle qui est prévue au Code criminel. L'emprisonnement à perpétuité avec une possibilité de libération après 25 ans.
Mm-hmm.
Ça veut pas dire qu'il va sortir après 25 ans. Là. Les gens disent souvent, il va faire juste 25 ans de prison. Premièrement, 25 ans, c'est long. Deuxièmement, il va être évalué tout le long de ces 25 ans-là pour voir si dans 25 ans, on peut le laisser sortir puis qu'il ne soit pas un danger au public. Il y a des criminels qui sont en prison depuis 30 ans, 40 ans, qui n'ont pas eu de libération. Donc, ça ne veut pas dire que c'est automatique.
Oui, c'est ça. On a peut-être enlevé un peu d'importance à quelque chose dans le système qui est important, qui est la commission des libérations conditionnelles. On voulait peut-être faire fi un peu de ça, là.
Ben, c'est ce que cet article, dans le fond, qui avait été dicté par le gouvernement Harper, disait. On peut donner des sentences consécutives. Alors, lui, il en a tué 7. Imaginez-vous, 25 ans multiplié par 7. Puis même à 40 ans, qu'on l'appelle, il se fout même du 40 ans, 50 ans. Ils disent, écoutez, c'est inconstitutionnel l'article, that's it, parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison sachant qu'il va mourir là.
Mm-hmm. Sans banaliser la gravité du crime, est-ce qu'on a assisté à presque un spectacle de chiffres disant, j'ai l'impression qu'au Canada, au Québec, on a perdu la compréhension d'une peine à vie. C'est comme si les gens ne comprennent pas que c'est à vie, vous l'avez bien expliqué, ça ne veut pas dire qu'on sort, mais est-ce qu'on a fait un peu un spectacle de chiffres, t'sais, un peu comme aux États-Unis, quelqu'un qui est à 200 ans en prison, ben c'est peut-être plus grave que quelqu'un qui a un crime à 50 ans. Est-ce qu'on est là dans ce qui s'est passé avant?
Ben c'est ça, on s'en allait vers ça, là. On s'en allait un peu pour faire un peu comme les États-Unis et la cour, je suis content que la cour d'appel ait statué comme ça. Maintenant, comme je vous disais, d'entrée de jeu, ça devrait aller à la Cour suprême. Pourquoi?
Mm-hmm.
Parce qu'il faut que, éventuellement, la Cour suprême se penche pour que toutes les provinces du Canada s'enlignent là-dessus, qu'il n'y a pas des sentences cumulatives ailleurs au Canada. La Cour d'appel pourrait renverser le jugement de la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême pourrait renverser ce jugement-là. J'en doute, mais ce serait très intéressant que ça aille à la Cour suprême, le tribunal le plus haut du pays, pour statuer que cette décision de la Cour d'appel du Québec est correcte. Mm-hmm. Moi, on n'en parle plus.
Ben oui, uniformiser, parce qu'en ce moment, il y a des jugements contradictoires au Canada. Je veux dire, au Québec, on vient d'apprendre que c'est inconstitutionnel, mais en Ontario, je crois, le cas de Justin Bourque, lui qui avait tué des policiers, trois policiers, a été condamné à 75 ans. Il ne peut pas demander la libération avant 75 ans. Est-ce que ça fait que ce jugement-là pourrait être revisé? Est-ce que les autres provinces doivent regarder ce qui s'est passé au Québec?
Ben, c'est sûr que, comme il n'y a pas eu de jugement des tribunaux supérieurs ailleurs, de ce que je pense en tout cas, à ce moment-là, ils vont s'inspirer de ce jugement-là. Alors si, par exemple, la Couronne dans une autre province venait dire on demande des peines consécutives pour des double ou triple meurtre, ben on pourrait citer la cause de la Cour du Québec. Sauf que ça lit pas les tribunaux. La Cour d'appel du Québec ne lit pas les tribunaux, même pas au Québec, mais ailleurs au Canada. Ouais. Il faudrait que la Cour suprême se penche là-dessus.
OK, c'est vraiment ça. Et parlant de la Cour suprême, on sait qu'en civil, on a entendu beaucoup parler, la Cour suprême va accepter seulement les dossiers qui considèrent avoir un intérêt public. En droit criminel, est-ce que c'est... Si la Couronne décide de faire une demande d'appel à la Cour suprême, est-ce que c'est automatique que la Cour suprême l'entend?
Non, ça va prendre, à mon avis, une permission. Mais vous savez, quand la Cour suprême entend, autant au criminel qu'au civil, il faut que ce soit d'intérêt national. C'est-à-dire une question importante qui n'a pas été encore traitée par la Cour suprême et qui est d'intérêt national. Alors moi, je pense que si... la Couronne allait en appel, ça, je pense bien qu'il y aurait la permission, ça se plaiderait, ou la Cour d'appel, ou la Cour suprême dirait je donne pas permission parce que c'est le jugement de la Cour d'appel du Québec est correct, donc ça viendrait confirmer ça. Ouais. J'aimerais mieux que la Cour suprême entende, donne la permission et statue là-dessus en disant pourquoi là c'est inconstitutionnel.
Ben, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont pas le choix. Si j'avais à parier là-dessus, je pense que je mettrais tout ce que j'ai à dire que ça se retrouvera en Cour suprême. Parce que ce que fait le juge, bon, c'est l'appel, c'est comme le procès du premier juge. Il s'est fait rabourrer dans le sens que il devait pas réparer l'article. Parce que ça aurait comme pas de sens. À chaque fois que le juge trouve que l'article fait pas son affaire, il change des éléments. C'est quoi qui se pourrait, surtout en droit criminel?
Non. C'est ça que la Cour d'appel a dit. Le juge ne peut pas changer l'article. C'est juste le législateur qui peut changer un article ou édicter de nouveaux articles. Mais un juge est lié par l'article du Code criminel. Alors, tout ce que le juge de première instance devait faire, c'est dire, est-ce que c'est constitutionnel? Si ça l'est, à ce moment-là, il peut donner 50 ans, il peut donner 75 ans, parce que l'article, s'il est constitutionnel, on pouvait accumuler les 25 ans, ou dire c'est inconstitutionnel, puis dire la sentence, ça va être celle qui, normalement, est donnée pour ça, c'est 25 ans. Alors, le juge, pour l'instance, a décidé, lui, non, c'est inconstitutionnel, mais voici, je vais lui donner 40 ans. Non, tu peux pas faire ça. Mm-hmm. La Cour d'appel l'a dit rapidement, là, que ça n'a pas de sens.
OK. Et là, on sait, bien, évidemment, comme on dit, c'est l'atrocité du crime est présente. Je comprends que le gouvernement Harper voulait mettre l'emphase, essayer de montrer que s'il y avait plusieurs morts, c'était plus grave. Est-ce que la communauté a raison d'être fâchée de ce genre de décision-là?
Mais
la communauté musulmane, là.
Ouais, ouais, c'est ça, je pense que vous savez, chaque humain, là, c'est sensible. On avait sept décès. Alors, pour l'être humain normal qui n'est pas un juriste, on regarde ça, on dit ben ça vaut bien plus qu'un meurtre. Sept meurtres, ça vaut plus qu'un meurtre. Mais Cour d'appel dit non. C'est pas une question de 1, 2, 3 ou 4. Là, c'est la question, on peut pas envoyer quelqu'un en prison puis jeter la clé, puis il sait qu'il va mourir en prison, ça va à l'encontre de nos principes de réhabilitation au Canada.
Mm-hmm. Parce que la réhabilitation, c'est quand même, c'est un des piliers quand même de notre système, là.
Oui, mais imaginez quelqu'un qui est en prison pour 150 ans. Premièrement, c'est dangereux pour les gardiens de prison, dangereux pour les co-détenus, dangereux pour tout le monde. Le gars, il n'a plus rien à perdre, il va mourir, là. Ouais. Alors, il n'y a aucun incentive, là, si me passez l'expression.
Espoir, ouais, je comprends, OK.
Il n'y a pas d'espoir de se réhabiliter, fait qu'il n'y a pas de raison de se réhabiliter en prison. Fait qu'il peut commettre d'autres meurtres, c'est pas grave, ça s'additionne, il sait qu'il va mourir, là. Alors, nous autres, au Canada, on n'est pas comme aux États-Unis, on s'est dit, non, on ne peut pas permettre ça. Il faut qu'il y ait un espoir à l'individu de sortir. Comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire qu'il va sortir au bout de 25 ans. Il ne faut pas s'énerver avec ça.
Oui, ça, c'est important de le rappeler. Faites bien de le dire. Ouais. C'est la commission va être là, puis il y en a qui meurent en prison, qui restent là. Ouais. Puis avec tout ce tapage-là, ben, mettre en cours, peut-être, parce qu'on a vu le cas de Galès là, qui avait été libéré et qui a tué une travailleuse du sexe. Là, ça avait ébranlé la commission. C'est certain que c'est un pilier important. Je pense qu'on devrait peut-être mettre de l'énergie là, être certain là, que la commission fait bien son travail. Mais habituellement, c'est des cas d'exception.
Oui, c'est ça. Vous savez, ceux qui sont libérés, j'ai pas le pourcentage. Mm-hmm. Et, moi, je dirais qu'il y a 90% des gens qui sont libérés qui ne récidivent pas.
Ouais.
Alors, la commission fait bien son travail, mais ça arrive des fois qu'il y a des erreurs. Et vous savez, c'est des humains qui sont à la commission qui essaient de s'assurer que l'individu ne sera pas un danger public en sortant. Et après avoir fait plusieurs années, la commission, lorsqu'il rend une décision, il s'appuie sur des rapports de psychiatres, de psychologues et de travailleurs sociaux pour rendre leur décision, parce qu'ils sont pas en prison avec l'individu, eux autres.
Que, ben ouais.
Il faut qu'ils se filent sur des professionnels.
Merci beaucoup, Maître Ancaux. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On a vu dans le dossier d'Alexandre Bissonnette la tuerie de la mosquée. On en a parlé auparavant. Le jugement d'appel est tombé. Où est-ce qu'on dit que, bon, on revient à la normale, c'est prison à vie. 25 ans minimum, on va pas dans le 50 ans, on a vu au Canada anglais, 75 ans. Et on voulait aller un peu plus en profondeur, savoir, la réhabilitation, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça aurait été correct, malgré l'atrocité du crime, de prévoir d'avance que quelqu'un ne pourra pas avoir accès, puis est-ce qu'il pourrait se réhabiliter? On en parle avec Gilles Vachon, psychologue conférencier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, dans ce dossier-là, on a compris que dans le procès, on va peut-être aller par la base, il y avait finalement pas de responsabilité, de non-responsabilité criminelle.
Eh bien, voilà. L'article 16 du Code criminel nous dit que finalement, si quelqu'un est atteint de santé mentale, qu'il ne peut pas et que c'est assez grave, il ne peut pas être tenu criminellement responsable. C'est souvent un grand débat en cours, expert contre expert. On se demande si la personne, jusqu'à quel point elle n'est pas consciente, jusqu'à quel point elle distingue le bien, le mal. Ça va rester toujours un dossier compliqué et on ne se mêlera pas de ce que la Cour va décider. Mm-hmm. Mais à l'extrême du dossier, à un extrême du continuum, il y a cette idée de non-responsabilité criminelle. Quelqu'un qui fait une psychose aiguë, par exemple, qui ne reconnaît pas la réalité, le bien et le mal, ne serait pas justiciable au sens criminel du terme.
Voilà. Ouais. Et là, je pars de cette base-là. On va aller un petit peu plus loin. Je sais que c'est pas votre expertise directe, mais on va y aller en analyse. Parce que, bon, une fois, on se rend compte qu'il est non criminellement responsable, mais il y a des éléments de santé mentale. Moi j'ai suivi personnellement le procès d'Alexandre Bissonnette. Et là, c'était tout le questionnement à la base. Est-ce qu'il est réhabilitable? Tout le monde se posait la question, les psychiatres. Et la plupart disaient que c'était des risques qui pouvaient être moyens. On essayait de déterminer ça dès le départ. Il y a même Dr Chamberlain qui est allé jusqu'à dire que c'était à l'inverse, que lui, en prison, sa personnalité pouvait se cristalliser et il pourrait quasiment être pire en sortant. Vous, est-ce que vous croyez à ce qu'une personne est réhabilitable dans l'esprit criminel, là?
Le jour où on ne croira plus à ça, là, on va tous les condamner à vie. Là. Alors, on vit dans une société où, effectivement, la réhabilitation est possible et souhaitée. On met tout en place pour que ça arrive, pour que ça en faire la promotion. Et dans bien des cas, ça marche. On a plein d'exemples autour de nous de gens qui, à cause de... Évidemment, on ne mettra pas tout sur le dos de l'enfance. D'ailleurs, on n'excuse pas les gens, on les met en prison. Mais oui, des gens ont connu une vie misérable, parfois psychologiquement, et ils sont semi-responsables, complètement responsables. Ils font un bout en prison, et on a des gens qui sont réhabilités. Mais à l'autre extrême, on a aussi des gens qui sont pas réhabilitables, manifestement, et qui se comportent en prison comme s'ils étaient à l'école du crime. Il y en a pour tous les goûts, et c'est pour ça qu'il y a une commission de libération conditionnelle qui évalue au bout du compte si quelqu'un devrait bénéficier d'une remise de peine ou pas. Parce que voulez-vous, c'est pas écrit d'avance ce qui va arriver là.
Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que on peut avoir parce que je pense que le débat est beaucoup là-dessus dans Bissonnette. T'sais, on voulait prévoir d'avance, c'est ce que Harper avait fait. S'il y a des meurtres multiples, on met ça à 5 ans, 75. Est-ce que on peut justement prévoir d'avance? Est-ce qu'on peut faire confiance, pardon, à notre commission d'être un bon gardien, justement, parce qu'on sait que dans le cas de Bissonnette, c'est pas les 25 ans, c'est prison à vie. Et après 25 ans, s'il n'est pas libérable, on ne libère pas. Est-ce que, psychologiquement parlant, on peut vraiment évaluer ça?
Vous savez, évaluer quand on est autant en amont et quand, en plus, il y a une composante de santé mentale, c'est extrêmement difficile. Il va falloir effectivement qu'au bout d'un certain temps, on réévalue la situation. Et ça, c'est le job de la commission à ce moment-là. Que ce soit dans 5 ans ou dans 25 ans, oui, ça peut évoluer dans un sens favorable. Mais oui, le docteur Chamberlain a dit que sa personnalité pourrait se cristalliser, pourrait à la limite revenir des éléments de santé mentale qui l'ont peut-être atteint et développer une personnalité plus détestable encore. Allez donc savoir. Tout ça, c'est possible. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, dans ce genre de sentence, il faut, au bout du compte, à un moment donné, qu'on réévalue la situation. Est-ce que quelqu'un s'est réformé? Est-ce que quelqu'un... comme disait ma grand-mère, on rempironnait. Il va falloir qu'on décide ça, et c'est pas le temps de décider ça. Maintenant, on peut se dire, c'est quoi la fenêtre des possibilités? Ben là, dans ce procès-là, on a dit qu'il y avait, ça pouvait être aller d'un côté comme de l'autre. Ben, heureusement, on a un point de contrôle à un autre moment donné.
Okay. Au bout de 25 ans. Ouais, j'aime ça, un point de contrôle. Mais certains détracteurs diront, bon, on le sait, après 25 ans, il va se présenter, il va nous faire à croire qu'il regrette puis qu'il est réhabilité, mais c'est pas vrai. Puis les psychiatres, ils peuvent pas détecter ça, quelqu'un qui leur ment. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ben, vous savez, la vie en prison, là, 24 sur 24, 7 jours par semaine, c'est long en tabarouette. À moins que je sois capable de mener une pièce de théâtre et puis de tenir un rôle pendant 25 ans, 24 sur 24, 7 jours par semaine. On va te pogner, là. Si tu te comportes en délinquant, en dedans, tu vas te comporter en délinquant. Et on va le savoir. Les gens qui sont réformés, évidemment, vous pouvez toujours me montrer des films de gens qui ont été, et le cinéma est excellent pour ça, vous montrer des gens qui ont fait semblant qu'ils étaient réformés et qui ont attendu 20 ans pour aller commettre le meurtre qu'ils anticipaient commettre déjà il y a 10 ans. Ben, écoutez, ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, là, quelqu'un qui est en prison, en général, nous, on est capable, puis il y a du personnel compétent en prison, là. Ouais. On est capable de trouver si quelqu'un effectivement, se réforme ou pas. J'ai connu des gens, moi, en fait, une personne qui est devenue docteur en psychologie et qui avait commis un meurtre dans son adolescence.
Ah, bon, ouais.
Une très, très bonne personne, un accident épouvantable dans le développement de cette personne-là. Une personne dont on ne pourrait pas imaginer à aucun moment qu'elle a connu ça. Et lui, ça a été, je vous dirais que la prison a été, il s'est développé sous un bon angle. Mais je comprends aussi, vous savez, on a souvent le raisonnement qui va en fonction de nos motivations. Je suis certain que beaucoup de personnes qui sont des victimes collatérales d'un meurtrier voudraient le voir encore plus noir qu'il ne l'est, ne veulent pas voir de possibilité que cette personne-là se réforme. Oui, c'est possible. Il y en a pour tous les goûts. Mais je vous dirais que le jour où on n'aura plus de croyance que quelqu'un peut se réformer, eh ben, et on lui mettra en prison pour de bon et à vie, que voulez-vous.
Je comprends.
Et on entend ce choix-là et c'est le pari qu'on fait en société. Puis allez pas croire qu'au Canada, on fait pas mieux qu'aux États-Unis. On fait nettement mieux. Notre taux d'incarcération est moins élevé. Ça plaît pas toujours à ceux qui voudraient qu'on zigouille et qu'on pende tous les criminels, mais notre taux de récidive est meilleur que celui des Américains. Ils internent à tour de bras dans les prisons et leur taux de criminalité est plus élevé. Donc, leur solution ne marche pas mieux que la nôtre.
Bien, justement, puis pour nos auditeurs, aux États-Unis, ils n'ont pas de misère à condamner quelqu'un pour 200 ans. Là. C'est ça. Est-ce que, Dr Vachon, est-ce qu'à quelque part, avec respect pour le système de justice, mais est-ce qu'à quelque part, on a donné un spectacle de chiffres dans le sens que ça fait du bien de dire, bien, lui, c'est 50 ans, mais c'est un peu irréaliste de dire ça. Quand on arrive à 100, parce que Bissonnette, théoriquement, on aurait pu dire 150 ans selon la disposition. Est-ce qu'on donne un peu un spectacle de chiffres?
Vous savez, une fois qu'on est entré, j'ai participé à des procès criminels, et une chose que je déplore énormément, c'est quand on est entré dans cette logique-là, dans la logique où je veux faire condamner... Et là, l'autre logique de l'autre côté, je veux faire libérer à tout prix. C'est tout ou rien. Alors, moi, j'ai vu des gens qui, à un moment donné, on a plusieurs cas comme ça, bien documentés, où l'important, c'est plus de savoir s'il y a une nuance ou où est la vérité, c'est de faire condamner ou de faire innocenter. Malheureusement, c'est notre système qui est bâti comme ça. Je n'en propose pas de meilleur, je n'en connais pas de meilleur. Mm-hmm. Mais il arrive un point parfois où on peut, à cause de la façon dont on va plaider le dossier, se ramasser avec un 50 ans ou un 15 ans. Puis là, la marge est large. Puis peut-être que la personne qui subit ce traitement-là va se dire que c'est pas juste. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas de solution à proposer. Ce que je sais, c'est que quand il y a de la maladie mentale, c'est un problème. Quand il y a un dernier cas à Québec où manifestement on était en face d'un problème social, oui. Où toute la société qui doit se dire comment ça se fait qu'on ne s'est pas occupé de ce gars-là avant. Vous savez, il n'y en a pas de solution simple à tout ça. Le risque zéro n'existe pas. Les gens complètement fous, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite ombre de lumière quelque part. C'est pas facile à départager. Je n'aurais pas souhaité être dans ce procès-là d'aucune façon. J'en ai pas de solution miracle. Ce que je sais, par contre, c'est que, il faut apprendre aux gens à être responsables. Ça commence très, très tôt dans la vie, en admettant qu'il n'y a pas de maladie mentale.
Ouais.
Il faut apprendre aux gens à respecter les autres. Il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut faire un peu de philosophie, reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, tout semble équivalent. Vous n'importe quoi, vous n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut revenir à des affaires assez basiques dans la vie, comme ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, des choses assez simples. Il faut apprendre ça à l'école.
Ah, je comprends. Puis je comprends bien votre propos, puisque j'avais une question, mais on n'a plus le temps, mais je vous y avais répondu. Est-ce que quelqu'un est la même à 20 ans qu'à 5 ans, 60 ans? Bien, ça peut évoluer. On rappelle dans cette entrevue-là qu'on ne remet jamais en question l'atrocité du crime qui a été commis et la sympathie et l'impact sur la communauté musulmane de Québec. Mais il ne faut pas non plus qu'une peine soit une vengeance. C'est pour ça qu'on se posait la question. Merci beaucoup, Dr Gilles Vachon, de nous avoir éclairé dans ce dossier.
Au plaisir.
Bonne journée. Bye-bye.
avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Est-ce que vous croyez que le gouvernement Legault gère bien la crise? Là, on est à l'approche des fêtes. Vous avez vu une certaine gestion dans la première vague, deuxième vague, et là, la gestion du temps des fêtes. Pour ma part, j'ai l'impression que là, on est en train de se perdre un peu. Là. En droit, on utilise l'expression des fois pour être dans la chambre à coucher des gens. C'est des fois trop maternisé. Je comprends qu'il y a une crise, mais d'être trop en attente, de vouloir dire ben faites ci, faites pas ça, ça devient un. Le constat général, c'est que les gens sont mélangés. Et je ne suis pas sûr qu'on va avoir des bons résultats quand on ne comprend pas trop la règle. Et bienvenue les chicanes de famille également durant les festivités, si on peut se réunir, parce qu'un va dire ben on peut faire ça, l'autre va dire non, on ne peut pas, parce que ce n'est pas trop clair. Et on va analyser cette gestion-là avec un gestionnaire d'expérience de la plateforme 48 heures par jour, Patrice Ouellette, qui est avec nous. Bonjour.
Maître Bernier, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et vos auditeurs.
Oui, merci d'être là, parce qu'on a besoin encore une fois, parce que ça fait à vrai 3 semaines de suite qu'on en parle. On évolue. Qu'est-ce qui se passe là avec la gestion? Est-ce qu'ils perdent un peu le contrôle? Est-ce qu'on les met sur le volant?
Oui. Écoutez, Maître Bernier, moi, je compare beaucoup ça. Une belle analogie, je trouve, pour expliquer un peu ce qui se passe avec le gouvernement. C'est les séries éliminatoires. Imaginez les séries éliminatoires au hockey, dire environ quoi, 6 semaines. Puis à la fin de ces 6 semaines-là, qui est excessivement intensif, les joueurs sont mentalement épuisés, ils sont physiquement épuisés. Et on a toujours, je pense, vu aux nouvelles ou à la télé, des entrevues de joueurs en fin de séries éliminatoires, leur teint, leurs yeux, on peut lire la fatigue du guerrier. Mais ce qui se passe là, c'est que ça fait 8 mois que le gouvernement est en éliminatoire. J'ai l'impression, Maître Bernier, qu'il y a des joueurs qui sont sur la patinoire, qui sont épuisés, dont notre premier ministre. Et ouais. Quand on est épuisé, qu'est-ce qui se passe? On prend des mauvaises décisions. Notre jugement est altéré. Et j'ai l'impression qu'on est là présentement.
Ah oui. Tu me disais hors onde là, que tu avais même l'impression que le premier ministre manquait de sommeil, ça se peut-tu?
Écoutez, être épuisé, ça fait partie de ça, c'est le stress. Imaginez la pression, là. C'est sûr que c'est facile de regarder ça de l'extérieur.
Les gérants d'estrade, on est bon. Ouais.
Il y a une pression énorme sur le gouvernement. Imaginez le sentiment de culpabilité de fermer des commerces, la pression que ces gens-là reçoivent, aussi des lobbies, des commerces. Ça doit être énorme. Et les autres, ça fait 8 mois qu'ils sont dans ça, là. Mm-hmm. Et un gestionnaire qui est pris en crise, parce que c'est une crise qu'on vit, et qui n'a pas les capacités à renouveler ses énergies, c'est là qu'il va commettre ses plus grandes erreurs. Parce que son jugement est altéré, manque de sommeil, dort mal, prend des mauvaises décisions, a une attitude qui est très irritable, dure à de la difficulté à prendre la vie des autres, et on dirait que c'est ce qui se passe. Et les gens qui entourent notre premier ministre sont dans le même bateau.
Ouais.
Monsieur Arruda, Madame Guilbeault, ils sont dans le même bateau. C'est des gens qui m'apparaissent épuisés, qui sont plus de bons conseils et qui prennent des mauvaises décisions.
Mm-hmm. Et le danger, parce que là, c'est pas clair là, ce qui se passe. Je vais te poser une question de gestionnaire. Je sais que tu as géré des grosses entreprises, puis le gestionnaire, bon, à l'époque, le boss, il était quasiment méchant. Après ça,
ouais.
De nos jours, les patrons doivent être respectés, quasiment gentils, puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais je ne sais pas, dans la gestion, l'attitude, parce que on sent pas une gestion autoritaire, dans le sens qu'on semble voir le gouvernement beaucoup vouloir communiquer avec le peuple. Écoutez, si vous faites ça, ça va bien aller, on va vous en donner, mais si, tu sais, on vous demanderait l'histoire on vous donne 4 jours, mais Vous pouvez fêter deux jours là-dessus. Ils pourront jamais vérifier ça. À peu près tout ce qu'ils disent, ils pourront pas le vérifier. Est-ce que c'est bon en ce moment d'être dans cette gestion-là de totale écoute?
Non. Et c'est là le grand danger, parce que présentement, si au début, le peuple va tout écouter parce qu'il y a une grosse menace, il y a un ennemi. Ouais. C'est ce qui est arrivé au printemps. Il y a un ennemi, tout le monde se rassemble derrière l'ennemi. Ça n'a pas été dur pour notre premier ministre. Mm-hmm. Là, présentement, on ne comprend plus les messages ne sont pas clairs. C'est ça le manque de jugement. C'est qu'à un moment donné, on se lève un matin, on a un comité de crise, on ramasse des informations, puis on prend une décision. C'est justement là que les erreurs se font. Je veux dire, c'est pas normal, Maître Bernier, que la semaine passée, on annonce en grande pompe qu'on va pouvoir fêter ensemble à Noël. Puis une semaine après, on a dit finalement, on vous a dit que vous allez fêter ensemble. Ça va être juste deux soirs.
Ouais. Mais il disait, avec les données qu'on a en ce moment, on vous garantit pas que ça va être le cas parce que, bon, s'il y a un dépassement, on pourrait l'annuler. Mais... dans le fond, c'était une erreur d'être trop ouvert en partant. On est mieux d'avoir l'attitude plus restrictive pour ouvrir par après que d'ouvrir et de restreindre par la suite.
En gestion, Maître Bernier, à partir du moment où vous avez une information qui vous dit que c'est fort possible qu'on ne puisse pas tenir notre décision, ben vous ne l'annoncez pas, tout simplement.
Ouais.
Ouais. C'est un principe de base. C'est que vous créez des attentes. Vous allez avoir beaucoup plus de problèmes à gérer ça. Puis imaginez par-dessus ça aussi aujourd'hui, il faut gérer tout ce qui est médias sociaux. Mm-hmm. Où ça n'existait pas avant. On recule de 10 ans, le phénomène des médias sociaux pendant une période de crise pour un chef d'entreprise ou un premier ministre de gouvernement, médias sociaux, l'influence était très, 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 très faible. Aujourd'hui, écoutez, il y a des menaces de mort qui sont faites.
Ouais.
Il y a des gens qui sont condamnés. Donc, ça aussi, là, quand tu sors du bureau, puis tu es la vice-première ministre, puis tu as eu des menaces de mort, le niveau de stress est monté, tu dors moins bien. C'est tout ça qui s'accumule, qui fait qu'il y a des mauvaises décisions qui se font.
Ouais.
Présentement, j'ai pas l'impression qu'on a une équipe de gestion qui m'apparaît pas solide, qui lance des messages qui ne sont pas clairs. On dirait qu'ils gèrent avec des sondages.
Mm-hmm. Ils ont voulu être peut-être aimés, je ne sais pas. Souvent, ben en tout cas, j'ai déjà eu l'expérience de la gestion. C'est pas facile des fois. C'est un rôle qui est difficile d'être celui qui restreint, qui s'y est arrivé au départ disant il n'y aura pas de fête de Noël. Est-ce qu'on a voulu plaire?
Ah, c'est clair que ça a fait partie de l'équation, Maître Bernier, mais c'est là que ça prend des gens. Ceux qui ont demandé à être élus, ça vient avec le poste, comme on dit, hein?
Mm-hmm.
Et puis, dans ces moments-là, ce que ça prend, la première qualité, ça s'appelle le courage.
Okay.
Ça prend du courage pour dire à des gens que ça fait 6 mois puis 8 mois que le peuple a été brimé, ses libertés sont brimées. Ça prend du courage pour dire, ben à Noël, là, restez chez vous. Il n'y en aura pas de rencontre. Ça prend du courage, puis là, on dirait que la fatigue s'est installée, puis le courage est disparu.
Oui, courage, puis c'est quelque part, c'est tout à leur honneur, mais dans un autre sens, je pense qu'en matière de gestion, c'est néfaste de vouloir de penser, je sais pas, à ce que les gens, au malheur que ça va apporter de pas fêter Noël, de... Puis, tu sais, l'expression, j'ai l'impression, tu sais, souvent on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. À quelque part, c'est sûr qu'il y avait des bonnes intentions. Ça, moi, je remets pas ça en question.
Mais moi non plus du tout.
Est-ce qu'ils sont rendus qu'ils auraient peut-être besoin, parce que je sais que vous avez l'expérience là-dessus, là, de une sorte de conseil externe de gestion?
Ben, écoutez, je suis convaincu, Maître Bernier, que déjà le premier ministre a des points de repère externes. Je pense que, comme je le disais, je ne pense pas que le manque est là. Je pense qu'on fait face à des gens qui sont épuisés puis qui ont de la difficulté à avoir le bon jugement et le courage que ça prend pour dire au peuple, écoutez, voici la décision. Parce que prenez une entreprise, vous avez 50 employés, on peut pas les gérer de la même façon que quand on en a 30 000.
Mm-hmm.
Parce que si tu as un party de Noël, puis qu'il y a des milliers de personnes, ben ton message est mieux d'être clair. Puis c'est mieux d'être clair à quelle heure qu'il faut arriver. Parce que là, ça va être, excusez-moi l'expression, le bordel. Mais là, on gère une province, Maître Bernier.
Oh.
Fait que si on n'est pas clair, là, ben on est dans le pétrin et c'est ce qui se passe. Le message est confus, ça crée du mécontentement. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont mécontents. Le premier ministre du Manitoba qui dit à Legault, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Premier ministre de l'Alberta, lui, qui dit, nous autres, on ferme pas, on reste tout ouvert, les restaurants sont ouverts, on limite la capacité, mais même le Costco, lui, est limité dans sa capacité, même le Walmart aussi, donc il y a une approche peut-être un peu plus équitable au niveau du commerce de détail. Donc, on voit qu'il y a des approches complètement différentes. Donc, il y a des gens qui prennent des décisions différentes vis-à-vis le même problème.
Okay.
Vous allez me dire, bon, oui, le système de santé est différent d'une province à l'autre, les problématiques, la capacité du système de santé, c'est probablement la variable la plus importante. Mais là, on s'entend-tu que si c'est ça la variable la plus importante, pourquoi est-ce qu'on est ensemble à Noël? Je la comprends pas.
Ouais, effectivement. Mais c'est... Patrice, merci. C'est une bonne analyse. Vinato aussi... En pure gestion, parce que, bon, pour nos auditeurs, regardez, on sait, on veut pas être gérant d'estrade, on sait que c'est difficile ce qui se passe.
Ouais.
L'expression, on construit l'avion en plein vol, n'a jamais été aussi pertinente. Respect à leur travail, mais il est temps peut-être, justement, comme vous le dites, d'être certain d'être reposé et d'avoir des décisions clair, parce que quand c'est pas clair, ça. Ben, moi, je connais ça, hein, parce que je l'ai souvent dit, la couleur favorite des avocats, parce qu'on vit du chaos malgré tout, c'est bien le gris, parce que quand c'est blanc ou noir, des fois, il n'y a pas de litige. Donc, à ce genre de décision-là aussi, on souhaite le meilleur pour la suite avant les fêtes. Là, j'espère qu'on va réussir à trouver la bonne solution. Merci beaucoup, Patrice Ouellette.
Merci, Maître Bernier. Puis j'allais juste ajouter, Maître Bernier, que M. Legault aussi, il y a une option devant lui, c'est qu'il pourrait faire un remaniement puis amener peut-être une personne en avant-plan qui est plus reposée puis qui a un bon jugement. Parce qu'il y a une grosse équipe derrière lui, il y a des bons joueurs dans l'équipe qui pourraient jouer un rôle plus important pour permettre à certains joueurs de diminuer le temps de glace, comme on dit.
Ouais, c'est ça, garder de l'énergie pour mieux faire apparaître. Bon, ben merci.
Cube Radio.